retour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous interroger sur les tonnes d'informations et la masse de données qui s'échangent sur la toile. Il y a aujourd'hui une plus grande quantité d'informations en circulation sur Internet que toutes les phrases prononcées depuis l'apparition du langage. Nous voilà donc devant un questionnement inédit, comment gérer cette débauche d'infos publiques et privées, qui doit le faire et sur quels critères, comment retrouver celles qui comptent vraiment et comment déterminer celles qu'on veut conserver pour l'avenir. Voilà ce que nous allons chercher avec notre invité, Serge Habitboul, spécialiste de la gestion de données, titulaire de la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France, autour de la question « Comment s'y retrouver sur la toile ?» Et oui, comment s'y retrouver ? Bienvenue. Bonjour Serge Habitboul.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'INRIA, c'est l'organisme de recherche sur les mondes numériques, spécialiste des bases de données et de la gestion d'informations sur le web. Vous venez d'être nommé professeur au Collège de France, titulaire de la chaire informatique et sciences numériques. Vous êtes donc l'homme qu'il nous faut pour nous aider à nous y retrouver à tous les sens du terme sur la toile. Parce que quand on y regarde de près, il y a tout de même de quoi avoir un peu le tournis. En 2012, il devrait y avoir bien plus d'informations en circulation que la quantité correspondant à toutes les phrases prononcées depuis l'apparition du langage. C'est vous qui le dites dans votre leçon inaugurale, c'est hallucinant.
Oui, c'est tout à fait hallucinant. Alors, encore une fois, je prends un peu de recul par rapport à ce que je dis. C'est assez difficile de donner des chiffres sur ces choses-là parce que c'est trop imprécis, c'est trop compliqué. Mais c'est l'ordre de grandeur, ça vous donne des ordres de grandeur. Et quand on commence à regarder les ordres de grandeur de données dont on dispose, c'est vrai que on arrive à des chiffres, à des puissances de 10 qui sont totalement hallucinantes.
C'est une débauche d'infos, c'est totalement inédit quand même dans l'histoire de l'humanité, ça.
C'est totalement inédit, c'est une croissance qui est aussi exponentielle et qui est étonnante. Donc, en gros, on considère que la quantité d'informations dont on dispose double tous les 18 mois. Donc, c'est énorme.
C'est exponentiel, c'est pas fini,
ça continue, on voit pas où ça va s'arrêter. Et il y a peut-être, alors c'est difficile de, on pourrait donner des chiffres pendant une demi-heure, mais je vais donner deux points de vue. Sur ce qu'on peut stocker soi-même, ce qu'on peut transporter avec nous. Donc vous pouvez transporter aujourd'hui avec vous sur un disque tous les livres qui ont jamais été écrits, dont on dispose, tous les livres qui restent. D'accord. Donc tout ça, vous pourriez le transporter, vous balader avec, c'est lire le livre que vous voulez au moment où vous voulez. L'autre chose qui est peut-être un peu plus inquiétante, c'est que la quantité d'informations qu'on produit chaque année a dépassé la quantité qu'on peut stocker. Alors vous mettez bout à bout tout ce que vous avez, hein, tous les bouts de DVD, CD, tout ce que les disques durs, tout. Vous mettez tout ça, et bien la quantité qu'on produira cette année, on ne pourra pas le mettre dedans. Donc il y a non seulement une question de comment on cherche l'information là-dedans, donc on va, je pense, pas mal parler.
Absolument.
Mais il y a aussi comment on garde, comment on choisit ce qu'on va garder.
Du boulot pour vous, hein, les chercheurs à l'INRIA, autour de la question. Comment nous y retrouver sur la toile ? Première piste de réflexion sonore avec le mix forcément numérique de Guillaume Ploquin.
Bonjour à tous. Votre ordinateur contient certainement des données que vous ne souhaitez pas perdre. Photos de mariage, documents sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, etc.
Cette dernière version du Smart Storage vous propose un service de sauvegarde en ligne et assure une protection des données et une reprise d'activité rapide en cas de sinistre.
C'est formidable Internet parce qu'il y a tout. On ne sait pas ce qu'on y cherche et on trouve tout ce qu'on cherche pas.
Maintenant, quand vous achetez une chanson en route, elle est chez vous lorsque vous rentrez. Ce que vous faites sur votre téléphone se retrouve où vous le souhaitez, automatiquement.
Depuis bientôt 20 ans, Internet se développe et évolue de façon à permettre au monde entier de créer et de partager sans aucune censure.
On voit que ces machines à produire de l'information sont centrales.
Chercher l'information aujourd'hui, c'est important parce qu'on vit dans un monde d'information. Et il faut aussi apprendre à rechercher l'information, ensuite à la trier, ensuite à avoir un regard critique par rapport à l'information.
Nul n'est à l'abri d'une mauvaise manipulation ou d'une défaillance technique du matériel.
Ce dernier espace de liberté a permis à chacun d'accéder à la totalité des connaissances du monde et il a été le berceau de nombreuses révolutions.
Pour plus d'informations,
www.rfi.fr.
Serge Habitboul, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ?
C'est difficile d'avoir une réaction là-dessus, quoi. Tout est un peu dit, à la fois la dérision avec Anne Romanoff ou des...
On trouve tout ce qu'on cherche pas.
Et surtout, ce problème, ça soulève ce problème qui est déjà et qui va être de plus en plus un des problèmes clés de notre société, c'est comment on trouve de l'information, comment on suit ce qui se passe, comment on peut contrôler ce qui se passe dans un monde où l'information est aussi massive.
Hein. Il y en a tellement et dans tous les sens.
Il y en a tellement, il y en a au niveau international, c'est-à-dire des informations publiques, des informations... Alors maintenant, il y a tout un mouvement pour mettre les données publiques sur le web pour que les gens puissent contrôler la vie publique. Bon, c'est des données considérables, mais il y a aussi au niveau privé, toutes les données de vos amis, tout ce qui pourrait vous intéresser. Donc c'est bien sympa de savoir qu'il y a une photo où vous êtes qui a été prise à cette dernière fête, mais si vous la trouvez pas, vous saurez jamais qu'elle existe. Donc,
alors, autour de la question, comment s'y retrouver justement sur la toile? On va peut-être commencer par quelques petites définitions. On a entendu www.rfi.fr. Les trois W, c'est le World Wide Web. Alors vous, Serge Habitboul, vous préférez dire la toile. C'est la même chose, c'est ça, hein?
C'est pratiquement la même chose. C'est la traduction française de web. Moi, je trouve ce que j'aime bien dans le mot toile, c'est le clin d'œil aussi à la toile de cinéma ou à la toile de peintre. Il y a une autre raison aussi pour utiliser le mot toile plutôt qu'au World Wide Web. World Wide Web, c'est quand même assez précisément un protocole de communication sur Internet. Donc, ça a peut-être tendance à un peu fermer le domaine en disant.
Donc la toile, c'est encore plus large, c'est pas seulement le World Wide Web et c'est pas seulement Internet.
Voilà, dans mon sens, la toile, c'est plus large que le World Wide Web. En tout cas, c'est la même chose, mais sans mettre de contraintes. C'est tout ce qui est contenu au-dessus. Alors, l'Internet, c'est le tuyau. Internet, c'est ce qui vous permet de faire passer de l'information d'un ordinateur à un autre dans cette toile d'ordinateur. La toile, c'est ce qui est devenu non plus un réseau d'ordinateurs, mais un réseau de contenu. C'est ce qui vous fait passer d'un contenu à un autre, vous retrouver un film, une musique, un texte.
Et à propos de contenu, vous faites une grande différence entre tout ce qui s'échange, donc, c'est-à-dire les données, les informations et les connaissances. C'est pas la même chose. Déjà, les données et les informations, c'est pas la même chose. Pourriez-vous nous expliquer ça, Serge Habitboul?
Oui, alors ça, c'est quelque chose que sur lequel j'étais passé peut-être un peu rapidement quand je faisais mon boulot, parce qu'on travaille tous les jours, on pense pas à ça. On travaille de temps en temps avec des informations, de temps en temps avec des connaissances, de temps en temps avec des données. On fait pas trop la différence. Mais en préparant ce cours au Collège de France, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye d'expliquer ça. Et c'est pas très simple. Vous trouvez des bouquins de philosophie qui essaient d'expliquer pendant des pages et vous avez pas forcément envie de lire tous ces détails. Alors la meilleure explication, le meilleur exemple, c'est mon fils qui l'a trouvé, parce que je pataugeais un peu pour expliquer
les
ça.
Les jeunes, ils sont bons, hein, pour nous aider à
comprendre.
Voilà,
pour trouver le bon exemple. Si vous prenez des mesures de température dans une station de sport d'hiver, c'est de la donnée. Si vous commencez à tracer des courbes qui donnent l'évolution de la température en différents endroits en fonction des jours de l'année, ça devient une information. Et si à partir de ça et d'une étude, vous arrivez à déterminer que la température sur Terre croît à cause de l'activité humaine, c'est devenu de la connaissance. Donc typiquement, des données, c'est quelque chose d'assez brut. De l'information, c'est quelque chose qu'on a enrichi. Ça peut être par exemple du texte aussi. Hein. Quand vous lisez un texte, c'est déjà des informations. Et la connaissance, c'est ce qu'on peut extraire, c'est des lois qu'on peut en tirer, c'est des faits dont on peut être éventuellement sur lesquels il peut y avoir des accords.
Donc l'intérêt de pouvoir échanger, c'est pas seulement d'échanger des données, c'est de pouvoir échanger de l'information et de pouvoir en fin de compte échanger de la connaissance. C'est ça l'intérêt majeur de ces technologies numériques.
Absolument, absolument. Tout ça passe toujours sur les mêmes tuyaux, c'est-à-dire Internet, mais avec différents niveaux de précision, de vraisemblance, des choses qui sont plus ou moins discutables ou pas, mais ça se place à tous ces niveaux-là.
Et là, ça impose déjà quoi, de filtrer quand même par rapport aux données, de se demander comment est-ce qu'on peut s'y retrouver par rapport à toutes les données qu'il y a sur Internet pour en tirer de l'information d'abord et de la connaissance ensuite. C'est un peu ça aussi votre travail de chercheur.
Alors c'est un peu ça, mais c'est aussi de façon générale le fait que quoi que vous traitiez sur Internet, les volumes pourrait être considérable. Si vous prenez, par exemple, l'information juste textuelle, il y a des milliards de pages de texte dans un format qui s'appelle HTML ou PDF, dans des formats différents formats, mais il y a des milliards de pages de texte. Quand vous cherchez une information, que fait un moteur de recherche? Il va vous permettre de trouver peut-être la page que vous cherchez là-dedans.
Peut-être.
Peut-être.
Autour de la question.
State attento, nadie va prestando attention, el chofer se durmió. State attento, nadie te protege a vos. You have to reach, reach the top, and yes, you have to teach. Teach the youth and all them have to reach. Reach the top and all them have to teach. Reach them goals to them children. Mostrarle al mundo lo que sabes hacer. Mostra a los chicos lo que no pueden ver. Lo que esta sociedad no quiere reconocer. Y pareciera que quieren esconder. Mostrarle al mundo lo que estás sintiendo. Decirle a los jóvenes que hoy estás amando. Contarles que la vida los está llamando. No temas contarle hoy a la juventud que en esta vida todo es cuestión de inquietud. Tanta pérdida de tiempo, se ve tan poquita luz. Mucha data te está corrompiendo hoy. Mucha data te está arruinando. Mucha información te está destruyendo hoy. Mucha data te está aniquilando. Comunicación dicen que están creando. Eso no es lo mismo que estar hoy cortando la posibilidad de que sigas descubriendo esa hermosa vida que estás desarrollando. Sobredosis de posta, de costa a costa, comiéndote como la plaga de langosta. Tu casa por satélite podés llegar a ver, pero a tu persona no podés acceder. Todo es tan confuso cuando nadie es sincero, cuando se busca luz dentro de un agujero. Mala información no es educación, y es que este aparato maneja confusión. Mucha data te está arruinando hoy, mucha data te está consumiendo hoy, mucha data te está limando. Tus neuronas se están apabullando. Esto es un pantano donde estamos viviendo. En todo este barro nos estamos hundiendo. Tanta mierda que te está hoy quemando, como un leño en tu cabeza ardiendo.
¿Cómo podemos consumir toda la bosta que nos dan?
Chusmerío es de chusma. Chusmerío es de chusma. No es más que burro que rebuzna. Amarillo es amarillo, vos también sabes que todo esto es sencillo. Amarillo vende, eso es lo que prende. A nadie sorprende, pero nadie se desprende. Tanta basura que choquea en tu mente. En un circo te están metiendo, te están comprando, te están vendiendo. Te están arruinando, nadie está disimulando. Les chupan huevos y te estás hoy muriendo. Si todo de golpe te estás hoy comiendo. Más que creciendo, involucionando. Es que mucha data te está confundiendo. Es que mucha falsa data te está quemando.
Le groupe argentin Los Cafres sur RFI, muchas data, et oui, tellement de données autour de la question comment s'y retrouver sur la toile. Nous sommes en compagnie du chercheur Serge Habitboul, titulaire de la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France, qui nous aide justement à essayer de nous y retrouver un peu sur le web. Ce World Wide Web, donc les fameux 3W, inventé, on l'ignore souvent, par des physiciens, désireux de pouvoir partager toutes leurs informations, comme nous le raconte Carlo Rovelli, éminent physicien, théoricien. Écoutez son éclairage.
Le web a été inventé par les physiciennes du CERN à Genève, qui avaient le besoin de partager leurs données et d'avoir une façon simple de mettre à disposition les données entre des scientifiques partout dans le monde. Et après, ça a explosé, c'est devenu le langage central avec, dans lequel nous faisons la communication aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que le réseau lui-même est né comme ça. Le réseau lui-même, il ne faut pas l'oublier, est né par l'armée américaine. C'est une idée militaire et je trouve qu'il y a toujours un étrange double esprit au cœur de ceux qui aiment le réseau, parce qu'il y a un esprit anarchique, rebelle. Au début, le réseau s'était fait par le peuple, la base, pour le partage. Il n'y avait pas d'entreprise, il n'y avait pas de pouvoir, il n'y avait pas d'argent. Mais on oublie un peu que tout ça existait parce que l'armée américaine avait créé cette structure qui avait une fonction de sécurité, donc c'était une structure non centrée, de façon que si les Russes avaient envoyé une bombe atomique, détruit un nœud, il aurait pu continuer à fonctionner. C'était ça l'idée centrale du web. Et donc cette liberté, cette gratuité, en réalité, il y avait un pouvoir central absolu et central, parce que le réseau est encore contrôlé par l'armée américaine, finalement, et quelques centres. De plus en plus, c'est devenu un instrument indépendant et passer des mains des militaires aux mains de tout le monde ce que veut dire de l'argent de grand pouvoir. Mais le rêve de la structure anarchique et livre dans la main des jeunes qui écrivent les programmes, ça, en réalité, est toujours un rêve plus qu'une réalité.
C'est toute l'ambiguïté de la toile, hein, du web, d'Internet. Vous voulez réagir à ces propos du physicien Carlo Rovelli, Serge Habitboul?
Oui, il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Juste au départ, le web n'a pas été inventé par des physiciens, il a été inventé par Tim Berners-Lee et Caillot, qui à mon avis étaient des informaticiens qui travaillaient au CERN, dans un centre de physique.
Mais c'était vraiment des informaticiens.
À mon avis. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça a été inventé dans un cadre scientifique. Ça, c'est
pour s'échanger toutes sortes d'informations.
Pour s'échanger des informations. C'est ça qui est important. Qui l'a vraiment inventé, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que l'idée de départ, c'était de mettre en commun des données, de les rendre disponibles à tous. C'est ça l'idée de départ qui, d'une certaine façon, depuis le début, continue à survivre, mais en se heurtant sans arrêt à, je sais pas, la monétisation des contenus, par exemple, ce qui est les gens qui veulent gagner de l'argent en mettant de la musique, des films, etc., avec des bonnes raisons parfois, comme le fait qu'il faut bien rétribuer les créateurs, etc.
Mais en même temps, ça va contre la philosophie première du web, c'est ça.
Ça va contre la philosophie première du web, et moi j'aurais tendance à dire ça va contre quelque chose qui est bien au-delà de cette philosophie, qui est le fond de cette philosophie, qui est d'amener la connaissance et la culture à tous de façon libre, gratuite, qui est l'utopie fondamentale du web. Et sur lequel, bon, il y a des avancées, il y a des reculs, etc.
C'est une utopie, mais c'est une utopie pour laquelle vous travaillez, à laquelle vous croyez vous aussi, si j'ose dire, web des connaissances.
Il y a beaucoup de gens qui croient. Elle est techniquement réalisable. Il y a des difficultés qu'on rencontre sans arrêt, qui sont la confrontation avec un monde dans lequel l'argent est quand même très important, aussi des réalités qui font que les créateurs doivent être rétribués, je l'ai déjà dit, mais le fait aussi que les entreprises commerciales qui peuvent industrielles peuvent apporter énormément au web. On a vu des grandes avancées techniques comme les moteurs de recherche qui ont été complètement issus de laboratoires universitaires mais qui ont été repris par l'industrie et qui ont fait quelque chose de magnifique. Donc bon, il y a des contributions dans tous les sens, mais je pense que c'est bien de rappeler que au départ il y a quelque chose, un réseau qui est assez anarchique. Et cette idée, cette utopie de partage des connaissances et de culture.
Alors, il y a cette utopie au départ, et puis il y a aussi l'armée américaine qui a fait Internet, et donc il y a aussi, dès le départ, l'idée de contrôler, de surveiller et de pouvoir être invulnérable. Enfin, il y a un peu, c'est tout ça en même temps.
C'est toujours les deux facettes de d'Internet et du web. Avec la même technologie, vous pouvez vous en servir quand vous êtes un gouvernant pour surveiller tous vos concitoyens, voir les fliquer, voir les terroriser, ou vous pouvez vous en servir si vous êtes un citoyen pour contrôler ce que fait votre gouvernement, pour le surveiller, pour vérifier que l'argent est bien employé, pour vérifier qu'il n'y a pas de corruption, etc. Donc la même technologie, et la technologie d'une certaine façon neutre, on parle des fois de la neutralité d'Internet pour autre chose, mais la technologie est un peu neutre, elle peut être utilisée dans les deux sens, et ça devient un problème quand même politique de savoir comment on va véritablement s'en servir.
Et en même temps, ce sont toujours des machines qui peuvent contrôler tout ça, donc on peut dire aussi que ces machines, elles nous surveillent aussi tout le temps, et qu'on est sous le contrôle des machines.
Oui, non, de toute façon, il y a aussi quelque chose, c'est qu'on délègue une partie de ce qu'on a à faire à des machines. On délègue une partie de notre mémoire à des machines. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que ces machines vont faire de cette mémoire? Qu'est-ce que ces machines vont faire de cette surveillance, d'une certaine façon?
On va marquer une petite pause, si vous voulez bien, le temps d'y réfléchir, le temps d'écouter le flash d'info. On se retrouve dans 3 minutes autour de la question: comment s'y retrouver sur le web? Et c'est un sacré chantier. Alors, à tout de suite.